Fabrice de Pierrebourg, journaliste d'enquête, salut.
Salut Bernard.
Résume-nous les faits là, à ce jour, à cette heure-là.
Bon, ben, c'est une attaque à la machette, ou plutôt un genre de hachoir à viande qui s'est produite ce matin devant les locaux, les anciens locaux du journal Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement de Paris, près de la Bastille. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que vers 11h30, puis petit détail là qui a peut-être son importance, c'est à peu près l'heure à laquelle avait eu lieu l'attaque à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Mmh. Il y a une personne qui s'est approchée de deux journalistes d'une boîte de production audiovisuelle qui font des documentaires, entre autres pour France 2, qui sont installés toujours dans le même cet immeuble-là, et les a attaqués donc avec cette arme blanche, les a grièvement blessés, c'est hors de danger. Il s'est enfui après à pied. Il a été arrêté place de la Bastille, moins d'un kilomètre des lieux de l'attaque, par des policiers civils. Et il opposait aucune résistance, mais il a été facilement repéré parce qu'il était couvert de sang. C'est les témoins ont dit qu'il était vraiment couvert de sang. Mmh. Il y a une deuxième personne qui a été arrêtée peu après. Là, c'est assez confus dans le métro. On ne sait pas trop ce qu'aurait été son rôle ce matin parce que les témoins disent qu'il n'y avait qu'une personne. Selon les médias français, ça serait un Pakistanais de 18 ans. Il a reconnu les faits immédiatement auprès des policiers. Et là, il est en garde à vue, hein, qui est une procédure d'interrogatoire. Il faut savoir qu'en matière de terrorisme en France, quand vous êtes arrêté pour terrorisme ou suspecté de terrorisme, vous pouvez être gardé à vue, donc interrogé pendant 96 heures. Et ça peut monter jusqu'à 144 heures. Donc bien sûr, c'est trop tôt pour savoir ses motivations, mais l'enquête a été confiée au parquet national antiterrorisme. C'est un peu la poursuite. C'est à la fois un outil judiciaire et policier qui est chargé donc de tout ce qui est attentat, complot d'attentat, etc. Et on verra plus tard quelles sont ses motivations, parce que c'est toujours les motivations, Bernard. Hein. C'est une discussion qu'on a souvent.
Bien sûr.
Donc un acte est soit un acte, on va dire criminel classique, ou un acte terroriste.
Bon, parallèlement à ça, évidemment, le procès sur les attentats de Charlie Hebdo, lui, se poursuit. Et il y a quelques jours de ça, Fabrice, on a appris que certaines des personnes qui avaient témoigné devaient maintenant bénéficier d'une protection policière parce qu'il y avait des menaces sérieuses qui avaient été proférées à l'égard notamment de la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo.
Oui, c'est ça. Puis c'est entre autres ce contexte-là qui fait en sorte que l'attaque ce matin, et évidemment, on soupçonne un acte terroriste parce que faut remonter un petit peu en arrière. Effectivement, ce procès, on en a parlé. Hein, j'ai assisté à l'ouverture, a commencé au début du mois. Et très rapidement, Al-Qaïda a proféré des menaces sur Internet en disant ce qui s'est passé en 2015, n'allez pas croire que c'est un événement isolé. Ça pourrait très bien recommencer. Hein. Vous êtes toujours dans la mire. Et mi-septembre, donc vers le 14 septembre, je pense, effectivement, la directrice des ressources humaines du journal, elle assiste au procès. Elle n'a pas pu rentrer chez elle le soir. Elle a eu 10 minutes pour faire ses affaires. On lui a dit, on doit absolument vous changer de lieu de résidence. Mais ça, c'est le lot, Bernard, des survivants et des employés actuels de Charlie Hebdo. Ils vivent tous sous protection policière permanente. On le voyait même au procès. Le procès, hein, je l'avais raconté, qui était sous très haute sécurité. Et eux-mêmes avaient leur propre bulle de sécurité autour d'eux. Il y avait d'ailleurs un des employés qui témoignait au procès, qui disait qu'ils ne peuvent pas recevoir d'amis chez eux. Chaque fois qu'ils doivent sortir ou aller quelque part, il faut demander l'autorisation à la police qui les escorte. Mmh. Il y avait même un d'eux qui a dit que leur processus d'adoption avait dû être finalement avait été annulé parce que la DPJ, l'équivalent de la DPJ en France, avait considéré que c'était trop dangereux qu'un enfant leur soit confié.
Imagine-toi.
Et Fabrice Nicolino, qui est un des survivants de l'attaque, un journaliste, a raconté lui qu'ils sont maintenant dans un endroit tenu secret. Personne ne sait où ils travaillent. Ça prend six portes et sas de sécurité pour entrer dans la rédaction, dont des portes blindées assez épaisses. Et même dans la salle de rédaction, on leur a fait ce qu'on appelle en bon français une panic room, là, où ils doivent se réfugier si jamais il y a quelque chose de suspect. Alors, ça donne pied un peu dans quel est l'idée de l'état d'esprit dans lequel ces gens-là travaillent.
Et puis nous, on a parlé, juste permets-moi, Fabrice, on a parlé à Zineb, là, Zineb El-Razoui, là, qui, elle, est toujours avec ses gardes du corps à la journée longue. Là. Moi, j'étais allé à Paris à un moment donné pour aller donner une conférence sur la laïcité. Elle était là. Et puis, on s'était vu pour prendre un café par la suite. Puis, on a pris notre café avec les gardes du corps. Là. Puis, à un moment donné, elle est sortie pour aller fumer. Puis, il y avait quatre gardes du corps autour de nous, là.
Et elle a quitté Charlie Hebdo, je pense, il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'elle n'est même plus à l'emploi du journal. Mais c'est sûr que c'est ce contexte-là, ça survient là. C'est sûr qu'il n'y a pas de hasard. On dit que ça s'est produit vraiment devant. Cet immeuble-là, il y a une fresque, d'ailleurs. L'attaque a eu lieu là. Bon, il faut savoir aussi que quand Charlie Hebdo a republié les caricatures au début du procès, l'endroit où il y a les plus grosses manifestations au Moyen-Orient, c'est au Pakistan.
Bah, oui.
D'origine pakistanaise, ça reste à confirmer.
Voilà.
Donc, c'est ça. Ça ravive des souvenirs et c'est sûr que les habitants, on imagine, du quartier, eux aussi, ont dû se dire, ça y est, c'est reparti, quoi.
Mais je veux dire, les Parisiens puis les Français en général, là, parce qu'il y a quand même un attentat qui survient, là, périodiquement. Ils doivent avoir l'impression que ça ne s'arrête jamais, qu'ils sont toujours comme sous, qu'ils vivent sous l'épée de Damoclès d'un autre attentat, puis d'un autre attentat, puis d'un autre. Ils doivent se demander, coudonc, ça va-tu finir par arrêter un jour?
Ben, moi, je pense que ça arrêtera quasiment jamais. Je veux dire, moi, je suis né à Paris, hein, j'ai habité Paris longtemps. Il y a eu des attentats dans les années 80-90 qu'on a oublié dans le métro, partout. C'est des vagues, comme ça. Effectivement, ils doivent se composer avec ça, avec des attentats de plus ou moins grande ampleur, mais peu importe l'ampleur, ça frappe l'imaginaire à chaque fois. Quoi.
C'est un stress permanent. Fabrice de Pierrebeau, journaliste d'enquête, merci beaucoup.
Salut Bernard.
Salut. Après la pause, on va vous parler de comment se prépare la deuxième vague. Il y a des rumeurs sur Montréal, je vous en parle après la pause.